Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, quand le coronavirus oblige certaines femmes à accoucher masquées, de nombreuses maternités imposent cette protection aux futures mamans qui dénoncent ces conditions d'accouchement, témoignage à suivre. Le Premier ministre en mode câlinothérapie, Jean Castex, reçoit plusieurs citoyens de la Convention Climat échaudés par les derniers revirements de l'exécutif. À suivre aussi des dizaines de clauses abusives dans les contrats de location de vos trottinettes, vélos et autres voitures électriques. Les volontaires arméniens se pressent pour défendre le Haut-Karabakh. Reportage sur place dans ce journal. Et puis une association qui propose d'entrer au capital des journaux pour renforcer leur indépendance.
L'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Je vous le rappelle, c'est aujourd'hui le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici.
France Inter.
Le masque, Sébastien, est désormais présent partout dans nos vies, jusque dans les salles d'accouchement.
C'est le constat d'une association qui tire la sonnette d'alarme. Selon le collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, beaucoup de maternités imposent depuis le confinement le port du masque aux futures mères, et cela pendant toute la durée de l'accouchement. Une épreuve que vivent très mal de nombreuses femmes. Sébastien Sabiron a recueilli leur témoignage.
En avril dernier, dès son arrivée à la maternité près de Bordeaux, Laurane, 35 ans, se voit remettre un masque jetable qu'elle portera durant 5 jours jusque dans la salle de naissance.
Le masque, ça m'a empêché de reprendre correctement ma respiration entre les contractions et les moments où il fallait pousser. Ça m'a donné des maux de tête, ça m'a donné envie de vomir. Donc ça a duré plus longtemps que ce que ça devrait. Et on a dû sortir le bébé avec une ventouse après une épisiotomie.
Gênée par son masque, Laurane n'aperçoit même pas le visage de son premier enfant. Expérience similaire pour Julie, qui a accouché en mai.
J'ai pas pu embrasser mon fils. Hein. Je veux dire, ça peut paraître anecdotique peut-être, mais c'est vrai que la naissance, c'est quelque chose de physique, quoi. C'est un lien très fort. Et c'est vrai que le masque, dans un moment pareil, je l'ai trouvé particulièrement gênant.
Selon le collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, l'obligation du port du masque s'est généralisée depuis le confinement dans les maternités, sa fondatrice Sonia Biche.
En France, nous n'avons aucune recommandation sur le sujet. Donc il y a chaque maternité qui décide, chaque soignant qui décide de son côté, et ça c'est pas possible. Il faut que les maternités elles soient guidées et que les hautes instances elles se prononcent sur le sujet.
Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français s'apprête à publier des recommandations qui devraient rassurer les femmes enceintes. En substance, le masque ne sera pas recommandé lors de l'effort expulsif, le moment critique de l'accouchement.
Sébastien Sabiron, au chapitre Covid, encore les restaurateurs et patrons de bars marseillais suspendus à un dernier espoir. Ils s'opposent à la fermeture totale de leur commerce. C'est cet après-midi que le tribunal administratif de Marseille doit se prononcer sur leur référé. Les professionnels de la restauration reçus hier à Matignon par Jean Castex, le Premier ministre a tenté de les rassurer sur les aides d'État auxquelles ils auront droit. Le Premier ministre qui va aussi tenter d'arrondir les angles aujourd'hui avec les maires qui dénoncent eux un manque de concertation avec l'État.
Jean Castex qui décidément démine tous azimuts, Sébastien.
Oui, le Premier ministre doit aussi recevoir une vingtaine de citoyens de la Convention Climat. Rendez-vous ce matin avec à ses côtés la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. L'objet de cette rencontre, les inquiétudes de ces citoyens à qui Emmanuel Macron avait promis de transmettre leurs propositions sans filtre, disait-il, à l'Assemblée. Des propositions qui pourtant tombent les unes après les autres. Ils attendent donc des éclaircissements de la part de l'exécutif, Célia Quiré.
Pour le moment, les 150 citoyens sont dans le brouillard. Le gouvernement a déjà refusé tout net deux propositions phares, une taxe sur les billets d'avion, le moratoire sur la 5G, mais ils ne savent pas ce qui sera retenu. Grégoire Frati est l'un de leurs représentants au sein de l'association Les 150. Il dénonce une certaine dissonance dans les discours.
On a besoin de comprendre ce qui se passe. Quand on entend certaines de nos mesures qui étaient validées par le discours du président en juillet, remises en question, que ça soit sur la 5G, que ça soit sur l'aérien, que ce soit sur la taxe sur le poids des véhicules, on se dit que certaines mesures, en fait, ne sont pas si validées que ça, qu'elles méritent des arbitrages au sein du gouvernement et que certains ministres s'octroient le droit d'utiliser de nouveaux jokers. Nous, on voudrait savoir, effectivement, est-ce qu'il y a de nouveaux jokers, oui ou non. Pour nous, la lecture, elle est totalement illisible. Et on ne demandera pas simplement des petites réponses, on demandera des affirmations claires, fermes, voire même peut-être une parole présidentielle pour réaffirmer cette ambition.
En principe, un projet de loi résultant de leurs propositions doit être présentée en Conseil des ministres mi-décembre. Les 150 citoyens n'ont pas vraiment d'inquiétude sur le calendrier, même si tout est retardé. Mais sur le fond, ils n'accepteront pas que leur long week-end de réflexion aboutisse à une coquille vide ou à quelques mesures symboliques sans réel effet sur la réduction des gaz à effet de serre.
Célia Kiré, il avait prémédité son acte. Le suspect dans l'attaque contre les anciens locaux de Charlie Hebdo était mis en examen tard hier soir pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. La mort de Victorine, toujours aussi mystérieuse, cette jeune fille de 18 ans était retrouvée morte en Isère. Il y a deux jours, après avoir disparu samedi soir, le scanner effectué hier n'a rien donné. Une autopsie doit avoir lieu aujourd'hui. Avez-vous lu votre contrat de location du vélo, de la trottinette ou de la voiture électrique que vous allez louer chaque matin pour aller au travail? Il y a fort à parier que la réponse est non, et c'est bien normal. On n'imagine pas que ces contrats soient mal ficelés, tellement le système paraît simple et léger. Et pourtant, ils sont loin d'être exempts de tout reproche. La commission des clauses abusives a épluché 45 contrats, et ce que les membres de la commission ont trouvé est édifiant, Philippe Lefebvre.
Effectivement, ils ont trouvé pas moins de 117 clauses abusives dans les contrats. C'est un record pour cet organisme indépendant qui indique que tous les opérateurs sont concernés à des degrés divers. Et pour Charles Le Corlaire, l'un des auteurs du rapport, il y a une explication.
On l'explique à travers l'analyse de contrats en provenance d'opérateurs étrangers qui n'étaient pas du tout au fait des règles relatives en matière de droit de la consommation et notamment de droit de protection des données personnelles.
Et les clauses abusives que l'on retrouve le plus souvent concernent la rédaction des contrats, illisible ou mal traduit en français, le non-respect de la protection des données personnelles, adresse ou numéro de téléphone, et plus grave, le fait que certains loueurs se donnent le droit de suspendre à tout moment votre contrat sans vous donner d'explication ou de vous facturer une durée de location plus importante que la durée réelle d'utilisation de la voiture, du vélo ou de la trottinette. Pour le moment, la commission des clauses abusives ne souhaite pas donner les noms des entreprises qui trompent les clients, mais elle précise que les dossiers pourraient être transmis à la répression des fraudes. Quant aux victimes de ces arnaques, elles peuvent désormais faire appel aux médiateurs de la consommation.
Philippe Lefebvre, ouverture aujourd'hui de la première voie d'autoroute réservée au covoiturage en France. Ce sera sur l'A78 sur 8 km. Dans le sens Lyon-Grenoble, entre la barrière de Voreppe et de Saint-Égrève, la voie de gauche précisément sera réservée au covoiturage en fonction du trafic. Une journée décisive pour l'avenir de Suez. C'est aujourd'hui qu'expire l'offre présentée à Engie par le géant de l'eau et des déchets Veolia pour le rachat de ses parts dans son concurrent historique. L'actualité à l'étranger. Aux États-Unis, on s'attendait à un combat de boxe. Ce fut effectivement musclé. Premier débat télé très chaotique cette nuit entre Joe Biden et Donald Trump depuis Cleveland dans l'Ohio. Et le candidat démocrate n'y est pas allé de main morte, qualifiant Trump, je cite, de clown, de caniche, de Poutine, allant même jusqu'à lancer « Will you shut up ?» Fermez-la au président américain. Réplique de Trump, il n'y a rien d'intelligent en vous, accusant son rival d'être une marionnette de la gauche radicale. On reste à l'étranger avec ce conflit qui ne cesse de s'intensifier dans le Caucase. Le Haut-Karabakh est en proie, on le sait, de violents affrontements depuis ce week-end entre d'un côté les séparatistes arméniens et de l'autre l'Azerbaïdjan. Les deux pays sont en alerte, ils ont déclaré la mobilisation générale, appel entendu en Arménie, où les volontaires civils se pressent pour rejoindre les combats. Comme a pu le constater notre envoyé spécial à Erevan, Claude Brouillot, c'est son reportage.
Certains débarquent en civil, d'autres sont déjà en tenue militaire. Les volontaires arméniens qui se regroupent dans l'aéroport de Erevan hésitent à leur arrivée entre rejoindre un lieu de rassemblement dans la capitale ou prendre directement la route qui mène vers le Haut-Karabakh, pressés qu'ils sont d'en découdre. Aganès arrive de l'ouest de la Russie, il a laissé son travail de chauffeur sans hésitation. Il avait 17 ans lorsqu'il est parti combattre pour la première fois dans l'enclave arménienne en 1992. Il en a aujourd'hui 45, mais garde la même motivation.
C'est la mobilisation, c'est obligé, c'est la guerre, nous n'attendons l'aide de personne. Nous allons nous battre pour notre terre, notre maison, c'est ça qui nous donne de la force. C'est une question de qualité des effectifs. Il n'y a pas seulement les engagés, il y a aussi les volontaires.
Aganès et ses compatriotes issus de la diaspora ont appris en arrivant qu'un avion arménien aurait été abattu par un F-16 turc dans l'espace aérien national hier. En prenant congé pour gagner la ligne de front, il nous donne rendez-vous à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour, dit-il, fêter bientôt la victoire. Erevan, Claude Bruyot, France Inter.
L'Arménie accusée hier, la Turquie soutient de l'Azerbaïdjan d'avoir utilisé un bombardier contre l'un de ses avions militaires. Démenti d'Ankara et de Bakou, le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un arrêt immédiat des combats. Bientôt l'épilogue dans l'affaire du match PSG-OM, près de 3 semaines après ce match de la honte, comme il a été raconté, entre les deux équipes au Parc des Princes. On va enfin connaître la vérité dans l'affaire des insultes racistes. Elle est examinée cet après-midi par la commission de discipline de la Ligue de football. Pour rappel, Neymar accuse le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez d'injures racistes. Sauf que depuis, la star brésilienne est elle-même accusée d'insultes racistes envers un défenseur japonais. Un comportement raciste ou discriminatoire est sanctionné par 10 matchs de suspension ferme.
Et on termine, Sébastien, avec cette initiative, devenir acteur de l'indépendance des médias.
C'est ce que propose l'association Un bout du monde, une association lancée par l'économiste des médias Julia Cagé. Un bout du monde a l'intention, grâce à ses donateurs et souscripteurs, d'organiser l'entrée des lecteurs et des salariés au capital des médias d'information. Explication Alexandra Hakoun.
Des années que Julia Cagé, spécialiste du financement des médias, le constate. Au pays de Voltaire, les organes de presse sont de plus en plus détenus par une poignée de grands patrons. Une concentration qui fait douter le public de l'indépendance de ces médias. Julia Cagé.
D'après les dernières études d'opinion qu'on a aujourd'hui en France, vous avez moins d'un quart des citoyens qui font confiance dans leurs médias. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ce qu'on a voulu faire avec cette association, c'est un rebond démocratique. C'est de dire aux citoyens, vous n'êtes pas content avec vos médias, eh bien partez à la reconquête de ces médias. Et Un bout du monde, c'est cette tentative de réorganiser une reconquête citoyenne des médias en poussant l'idée d'un actionnariat des médias par les journalistes, par les salariés et par les citoyens.
Un concept inédit auquel nombre de personnalités ont tout de suite adhéré. Plantu et les dessinateurs de presse de Cartooning for Peace, le comédien Philippe Torreton, l'ancien footballeur Lilian Thuram, tous sont parrains d'Un bout du monde, à l'image de la militante écologiste Claire Nouvian.
Je trouve ça bien par rapport à ce système qui dérive vers de la perversion, hein, puisqu'avoir quelques individus qui possèdent les médias, c'est contraire à l'équilibre des choses en démocratie. On a moyen de se réveiller et d'essayer d'agir sur les causes. Et je trouve ça, c'est plein d'espoir.
Mais pour passer des paroles aux actes, il faut de l'argent. Un financement participatif vient d'être lancé sur la plateforme KissKissBankBank. Un bout du monde espère rapidement atteindre les 500 000 euros.
Voilà, participer en tant que citoyen à l'indépendance des médias, c'était un dossier d'Alexandra Hakoun.
Merci Sébastien Legénie.